J'exprime mes cordiaux remerciements à leur éminence les bien-aimés frères qui ont eu la gentillesse de m'inviter à la réunion solennelle d'aujourd'hui, de leur corps constitué sous le sigle Assemblée des évêques orthodoxes de France. Le corps a été créé avec circonspection, patience, mais aussi foi en l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa véritable tradition séculaire, ainsi que dans la prise de conscience de sa nouvelle prédication, de son témoignage vivant dans le monde. Je rends particulièrement hommage aux délégués des organisations orthodoxes en France, aux représentants des autorités civiles, Monsieur le Préfet qui vient de partir, Monsieur le Cardinal qui vient de partir, Monsieur le nonce apostolique qui est bien présent ici. La France, pays bien-aimé, qui depuis de nombreuses années, dans un esprit de justice et de sollicitude, accepte sur son territoire beau et riche, qui fut le terrain d'âpres luttes destinées à faire prévaloir et instaurer les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, tous les membres des communautés orthodoxes qui ont trouvé refuge en France, en provenance de tous les pays de l'Europe, qui y ont travaillé, ont progressé et sont déjà installés, parfois déjà depuis 4 générations, et qui considèrent le pays comme leur seconde, voire la première partie. Je salue tout particulièrement à cette réunion d'aujourd'hui ces peuples fiers, orthodoxes par la grâce du Seigneur. J'exprime ma profonde émotion de le retrouver de plus en plus vigoureux, prêt à servir l'Église du Christ. J'exprime du fond du cœur mes meilleurs sentiments dont je garde le souvenir vivant en évoquant les nombreux beaux moments de convivialité vécus durant le chemin que nous avons parcouru ensemble. Éminence, Excellence, Honorable Assistance, chers frères et sœurs, ma présence aujourd'hui parmi vous a pour but de mettre en relief les composantes nécessaires de la présence, de l'action et du témoignage de l'Église orthodoxe dans ce pays et dans le monde entier. Nous traversons une nouvelle période de l'histoire, une nouvelle conjoncture, migrant dans de nouvelles terres et de nouveaux pays, et pour citer les paroles de l'Évangile, notamment celle de saint Paul, l'apôtre des nations, on nous insulte, on nous persécute, on vous calomnie. Nous ne sommes pas ici pour rappeler les déboires et les épreuves de notre vie personnelle. Nous sommes ici pour constater notre parcours, notre respect et notre fidélité inébranlable à l'Église du Seigneur. Grâce à cette foi, les communautés orthodoxes, les églises furent créées dans diverses villes et y ont prospéré. Elles sont devenues le lieu de rassemblement des minorités immigrées. Certes, les églises de nos pays d'origine, elles aussi éprouvées par les conflits et les guerres des années pénibles de l'histoire, ont soutenu ce qu'on appelle la diaspora, installée dans les régions étrangères situées loin de leur juridiction, en désignant des prêtres pour assurer le fonctionnement des communautés créées grâce aux sacrifices consentis par les expatriés. Les églises orthodoxes dans le pays de l'Est ont non seulement subi des malheurs et des restrictions, voire des interdictions dans le libre exercice de leurs droits, mais elles étaient en substance dans l'impossibilité de communiquer vraiment entre elles. Ce n'est que dans les années 60, plus précisément en 1961, que le patriarche Athénagoras, d'éternelle mémoire, a promu la rencontre des délégués des églises orthodoxes autocéphales réunies à Rhodes. Depuis, l'église orthodoxe a entrepris d'examiner toutes les questions pendantes la concernant dans un esprit de responsabilité morale et consciente de, sa mission dans le monde contemporain. Les questions ont été attentivement et méthodiquement examinées, de sorte qu'on avança l'idée de réunir un saint et grand concile qui, selon tout ce qui régit depuis toujours la tradition orthodoxe, allait entériner les décisions prises de concert à l'Esprit Saint sur les dossiers préparés. Je cite quelques-uns à titre d'exemple. L'importance du jeûne et son observance aujourd'hui. Les relations de l'Église orthodoxe avec l'ensemble du monde chrétien. La contribution de l'Église orthodoxe à l'instauration de la paix, de la justice, de la liberté, de la fraternité et de l'amour entre les peuples et à l'abolition des discriminations raciales et autres. Dès 1986, la troisième conférence panorthodoxe préconciliaire, réunie au mois d'octobre à Chambézy, près de Genève, au Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, a discuté aussi la question de la proclamation de l'autocéphalie et de l'autonomie des Églises, ainsi que celle de diptyque, c'est-à-dire l'ordre de commémoration des Églises dans la célébration de la divine liturgie. Depuis 1967, les Églises orthodoxes en France, à l'initiative inspirée et sous la conduite du feu métropolite Meletios de France, notre père spirituel et sage hiérarque fidèle à la tradition, avec la collaboration affirmée des saints hiérarques orthodoxes de cette époque, ont proposé et pratiqué cette coopération. Il s'agissait de rendre témoignage de la foi commune dans l'amour fraternel, témoignage d'unité pour nous les orthodoxes de ce pays, mais aussi témoignage d'unité et de collaboration coordonnée envers le monde qui nous entoure, premièrement nos frères les chrétiens de l'Église catholique romaine et de la Réforme, deuxièmement les autorités civiles. Témoignage destiné à manifester dignement et dynamiquement notre présence dans la société en évolution. Je me réfère ici à la contribution précieuse et substantielle du clergé et des laïcs de Paris, en commençant par l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, en la personne de ses professeurs anciens et nouveaux, dont je cite ceux aujourd'hui en exercice. Le révérend archiprêtre Boris Bobrinskoy, Nicolas Ozolin et Michel Evdokimov, fils du professeur Paul Evdokimov d'éternelle mémoire. Le révérend père Nicolas Loski, le révérend archiprêtre André Firilas, notre bien-aimé et proche collaborateur dans l'œuvre pastorale en l'église Saint-Constantin-Hélène de Paris. La liste des personnes est certainement longue et ce serait une omission de ma part de ne pas citer les excellents collaborateurs messieurs Olivier Clément, héros analyste sérieux de la préparation du Saint Grand Concile de l'Église orthodoxe, le professeur Michel Stavrou, le doyen de l'Institut Saint-Serge, le révérend archimandrite Job Guetcha, avec grande émotion et reconnaissance pour les services rendus à l'orthodoxie, je cite aussi les noms des hiérarques d'éternelle mémoire, membre de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, Serge Kolovanov et Gabriel Salibi. Nous prions pour le repos de leurs âmes dans le pays des vivants. Je conclus en citant deux personnes qui ont servi notre Église avec dévouement. M. Basile de Thiesenhausen, qui durant plusieurs années a tenu avec l'art et la minutie qui lui sont propres les procès-verbaux des réunions de l'AEOF, et Maître Carole Sabat, collaborateur compétent depuis longtemps. Voilà donc ce que signifie la solennité d'aujourd'hui, marquant le 40e anniversaire d'une commission informelle, pourrait-on dire, le Comité interépiscopal orthodoxe en France. Je vous invite tous à applaudir le service sacré rendu par toutes les personnes qui ont contribué à préserver et à développer cette institution dans la diaspora orthodoxe, en France notamment. Je vous invite à garder le souvenir de ce service rendu par les responsables de nos églises, quel qu'en soit leur poste de responsabilité, pour maintenir et développer le message d'une autre expression de respect et d'appréciation de la personnalité humaine surgissant dans le monde en mouvement et en quête d'orientation. Cependant, évoquer les bons et heureux souvenirs des événements religieux de notre vie n'est pas notre seule ambition. Nous sommes aujourd'hui appelés à aborder la question de notre existence avec sens accru des responsabilités. La question de la diaspora orthodoxe entend d'être résolue, d'être adaptée aux principes et aux normes canoniques que les pères de l'Église statuant en concile œcuménique nous ont légué grâce à de nombreuses luttes et faisant preuve de conscience ecclésiale d'unité. L'orthodoxie lutte toujours à garder la pureté de son organisation. Sa présence dans le monde, son unité rigoureuse et conforme en tout à l'esprit de l'Église est le résultat du discernement humain. C'est le fruit d'une bonne connaissance obtenue avec le soutien du Saint-Esprit, le guide et conducteur de notre vie. L'unité et la stabilité de l'Église sont pleinement exprimées dans la foi au mystère de l'Église. En tant que l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et dans sa manifestation absolue dans la divine Eucharistie. D'ailleurs, à l'époque contemporaine, la manifestation eucharistique de l'Église a aussi trouvé sa formulation dans les écrits d'éminents théologiens orthodoxes, dont le père Nicolas Afanassiev, d'éternelle mémoire, professeur à l'Institut Saint-Serge. Les conciles œcuméniques ont stipulé le critère dit canonique qui détermine jusqu'à nos jours le droit juridictionnel de l'Église orthodoxe locale. En revanche, nul n'ignore qu'aujourd'hui, plusieurs juridictions canoniques coexistent dans diverses régions, dont la France, alors que les principes fondamentaux de l'ecclésiologie orthodoxe interdisent formellement ces cumuls. Et pour comprendre précisément notre difficulté et notre problème, nous disons que l'autorité ecclésiastique orthodoxe doit être une dans sa manifestation dans un lieu, alors que pour des raisons spécifiques, il existe le phénomène d'hétérogénéité d'autorité. Suivant l'origine des membres orthodoxes de nos communautés, issus des pays différents, des juridictions ecclésiastiques différentes. Ici, en France, nous coexistons, bien entendu, en tant que communauté de nationalités et de langues différentes, et nous sommes appelés à mettre en relief notre obligation qui consiste à manifester l'unité de notre foi, à communier dans la divine Eucharistie, à nous sentir frères en Jésus-Christ, notre Seigneur. Conformément à la tradition de l'Église orthodoxe, seul le trône œcuménique, honoré de sa primauté d'honneur en Orient, possède une juridiction administrative extraterritoriale, c'est-à-dire située en dehors des juridictions établies des églises orthodoxes autocéphales. En dépit de ce principe énoncé par un concile, le patriarcat œcuménique a déclaré dans son rapport introductif sur la diaspora sa contribution au Saint et Grand Concile en préparation. J'ouvre les guillemets. Il serait possible, comme un aménagement provisoire des choses de la diaspora, d'accepter par économie ce qui a été partout éprouvé de manière satisfaisante. Les formes de collaboration et de coopération canonique des évêques ou des représentants de différentes églises orthodoxes locales au sein de la diaspora, toujours dans le cadre de l'ordre hiérarchique ecclésial établi. Je ferme les guillemets. Il importe donc absolument de trouver une solution définitive à cette question qui permettrait d'envisager les problèmes pastoraux, liturgiques, administratifs et autres créés par le pluralisme juridictionnel. La commission interorthodoxe préparatoire, réunie en novembre 1990 à Chambézy, près de Genève, au centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, a utilisé cette suggestion pour proposer, dans une étape intermédiaire, de créer des assemblées épiscopales, composées des évêques canoniques reconnus qui continueraient à relever des juridictions canoniques de leur église d'origine. La commission interorthodoxe préparatoire, réunie en novembre 1993 au centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, a précisé les régions de la diaspora dans lesquelles les assemblées épiscopales devraient être créées dans une première étape définie comme suit. Amérique du Nord et Amérique centrale. Amérique du Sud, Australie, Grande-Bretagne, France, Belgique et Hollande, Autriche et Italie, Allemagne. Ainsi donc, l'arrangement porte sur le monde entier et l'orthodoxie est appelée à jouer son rôle d'universalité, comme d'ailleurs l'humanité est en quête d'unité, difficile à obtenir de nos jours. Il ne serait pas exagéré de noter que la France est un pays pionnier et que du côté orthodoxe s'ouvre aussi une période plus organisée de son existence. Même si la commission interorthodoxe préparatoire n'avait pas défini ses régions, ici en France, dans un esprit de fraternité et de responsabilité ecclésiastique, le comité interépiscopal ou l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, Assemblée épiscopale, avait été instituée. Sa charte constitutionnelle établie et ses comités pour les questions théologiques, liturgiques, administratives et pastorales créées, conformément à la volonté et aux souhaits des évêques membres, l'Assemblée a agi avec méthode, sagesse et responsabilité, et les fruits de cette collaboration sont vite apparus. La présence orthodoxe dans le pays s'est mieux manifestée et a été mieux comprise. Les valeurs telles que la collégialité, l'importance de l'unité dans la foi, ont plus ou moins transcendé l'identité nationale. L'orthodoxie vit et agit dans toutes les directions, faisant preuve de l'esprit libéral qui anime depuis toujours et portant le message merveilleux que tous les peuples et les langues se rencontrent pour confesser et rendre gloire au Dieu unique, adoré dans la Trinité, le Dieu de nos pères. C'est cette façon de voir les choses que nous sommes appelés à servir en qualité d'Église orthodoxe en France, à nous consacrer à ce travail substantiel et à développer nos forces pour contribuer à la réalisation du grand rêve de voir nos Églises perpétuer leur tradition ecclésiale avec la même ardeur que dans le passé et avec la même foi. Je voudrais conclure mon exposé en soulignant trois éléments importants. Premièrement, nous devons en grande partie le travail accompli à ce jour aux stimulations et aux encouragements constants de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Les nombreux congrès qu'elle a organisés en France et dans d'autres pays européens pour examiner les questions concernant l'unité de l'orthodoxie ont amorcé le processus de sensibilisation et de la conscience ecclésiastique de ses membres, les jeunes surtout. Les évêques, l'Assemblée épiscopale de France ont réservé un actuel mitigé à l'idée de ces initiatives. Pour des raisons purement ecclésiastiques, ils ont pourtant reçu ces initiatives avec satisfaction et les ont systématiquement adoptées. Ici, nous venons féliciter et remercier tous les responsables de la fraternité de l'œuvre qu'ils ont accomplie et qu'ils continuent d'accomplir, citant notamment les noms du père Michel Evdokimov, de M. Jean Tchekan et du président en exercice M. Didier Villanova, ainsi que, de M. Cyril Sologoub, notre précieux collaborateur à tous. Je voudrais saluer aussi le travail précieux du service orthodoxe de presse, le SOP, qui pendant longtemps a assuré et continue de le faire un service d'information orthodoxe en France et je dirais pan-orthodoxe. Je salue particulièrement son actuel rédacteur en chef, M. Antoine Nivière, qui fait un travail minutieux, sérieux et compétent. Deuxièmement, le corps des évêques orthodoxes qui compose l'Assemblée épiscopale et l'organe ecclésiastique qui garantit la constitution substantielle de nos communautés orthodoxes en France, pays dynamique et représentatif. Nous remercions et félicitons nos frères en Christ du travail accompli. Son Éminence, le Métropolite Emmanuel de France, président de l'Assemblée épiscopale, qui depuis 5 années s'est chargé de poursuivre cette œuvre, assumant la présidence selon l'ordre établi en sa qualité de représentant du patriarcat œcuménique. Nous saluons avec lui Son Éminence l'archevêque Gabriel de Comanes, en tête de l'exarchat des communautés orthodoxes de tradition russe, relevant du patriarcat œcuménique. Nous prions Dieu de pourvoir pour que le vide créé par le départ en le Seigneur de notre regretté frère, le métropolite Gabriel, soit comblé par le patriarcat d'Antioche. Je salue tout particulièrement Son Éminence l'archevêque Innocent du patriarcat de Moscou en tête des communautés de cette Église en Europe occidentale. Je le remercie cordialement des messages d'amour fraternel qu'il m'envoie régulièrement. Je salue Son Éminence l'évêque Luc du patriarcat de Serbie, ainsi que Son Éminence le métropolite Joseph du patriarcat de Roumanie, ancien collaborateur et ami très précieux, ainsi que son auxiliaire, l'évêque Marc. Le travail de l'Assemblée épiscopale sert de modèle à tous les orthodoxes, et je souhaite que vous le continuez dans le désir sans cesse croissant et la responsabilité de révéler le plus possible l'unité de l'orthodoxie. Troisièmement, mon humble personne qui s'adresse aujourd'hui à votre charité a été chargée, comme vous le savez, à remplacer le directeur du Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique à Chambézy, P. près de Genève. Elle est secrétaire pour la préparation du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe. Je n'entrerai pas dans l'analyse de cette préparation. Il existe des questions spécifiques que nos églises locales sont en train d'examiner, des questions de priorité peut-être qui retardent la réunion des commissions préconciliaires. Je vous assure que tout effort est déployé pour garder à la question du Saint Grand Concile son actualité et pour faire avancer la question particulière de la diaspora, dont vous êtes les pionniers reconnus, agissant avec profonde foi et sens de responsabilité devant le monde qui espère avec confiance que l'unité des Églises s'exprime heureusement. Pour l'unité de Sainte Église de Dieu et pour l'union de tous, prions le Seigneur.